Bonsoir à chacun, à chacune de vous. Donc dans le cadre du thème « Grandir en liberté intérieure » à l'école de Thérèse, je vous propose un deuxième volet qui pourrait s'intituler « La liberté intérieure dans sa vie », dans la vie de Thérèse, et par là même aussi de réfléchir à la libération intérieure dans notre vie. Qu'est-ce que la libération intérieure ? La libération intérieure, c'est une rencontre avec Dieu, une expérience de Dieu sauveur, une forme de visitation de Jésus qui vient nous rendre notre liberté, qui vient nous libérer de toute forme d'esclavage. Thérèse l'a expérimenté dans sa vie au moins une dizaine de fois. C'est la manifestation de la miséricorde de Dieu qui vient la sortir, nous sortir, d'une situation de dépendance. Là où nous percevons, là où Thérèse percevait qu'elle était blessée, souffrante, parfois même bloquée dans son élan de vie ou dans sa recherche de Dieu. Donc la libération intérieure n'implique pas forcément la disparition du problème, et particulièrement de la souffrance ou de la blessure, mais qu'elle ne domine plus sur nous, au point de nous dicter notre conduite. Ainsi, Jésus restaure la liberté de Thérèse. Il lui rend une liberté libérée. Il la libère des obstacles qui entravent le plein exercice de la charité, c'est-à-dire de l'amour désintéressé. Et de telle façon que Thérèse puisse vivre une relation paisible, paisible avec Dieu, paisible avec elle-même, paisible avec la vie, paisible avec son entourage. Et cette libération que nous offre Jésus peut prendre différentes formes. Ce peut être une consolation. Ce peut être un relèvement. Ce peut être un dévoilement. Une guérison. Une conversion. Une réconciliation. Voilà autant d'aspects que Thérèse va expérimenter. C'est peut-être aussi une délivrance, ce que Thérèse ne connaîtra pas puisqu'elle n'a pas commis de péché grave. Notre pape Jean-Paul II a insisté sur ce point quand il dit « Nous ne pouvons pas rester prisonniers du passé. » Nous avons besoin d'une sorte de guérison des souvenirs, afin que les maux du passé ne reviennent pas. Cela ne signifie pas oublier les événements antérieurs, cela signifie les réexaminer d'un œil neuf et tirer précisément de l'expérience de la souffrance la conviction que seul l'amour peut édifier quelque chose, alors que la haine ne produit que dévastation et ruine. Il y a donc dans nos vies des événements, et particulièrement des événements du passé, qui peuvent aujourd'hui nous conditionner, nous gêner, nous empêcher d'aimer, parce que nous gardons des ressentiments, des rancunes, des violences, vis-à-vis desquelles nous n'avons pas donné le pardon, ou des mensonges, vous voyez, des torsions de la vérité qui font que, aujourd'hui encore, nous traînons ces événements. Bien, nous allons ce soir simplement regarder la vie de Thérèse et prendre quelques exemples. Bien, prenons un premier exemple qui est un exemple de guérison physique immédiate. C'est au début de sa vie. Vous savez que Thérèse était sous-alimentée dans les deux premiers mois de sa vie, que sa maman n'arrivait pas à la nourrir suffisamment, et qu'en plus elle va développer une maladie digestive, une entérite, qui va l'amener aux portes de la mort. Donc à deux mois de vie, Thérèse semble perdue. In extremis, sa maman, Zélie, trouve une nourrice, Rose Taillée. Thérèse, donc, qui ne prenait plus le sein de sa mère, parce que sa mère n'avait pas de lait, qui refusait le biberon qu'on lui donnait, parce que c'était du lait de vache avec de l'œuf et du pain, Thérèse se met à téter goulûment, tenez-vous bien, pendant 2 heures et demie. Soudain, raconte Zélie, elle a rejeté quelques gorgées et est tombée comme morte. Elle n'avait aucun souffle apparent. La nourrice regarda l'enfant en secouant la tête d'un air qui semblait dire « J'ai fait une démarche inutile ». Moi, je suis vite montée dans ma chambre, je me suis agenouillée aux pieds de Saint Joseph et lui ai demandé en grâce que la petite guérisse. Un quart d'heure se passe, ma petite Thérèse ouvre les yeux et se met à sourire. À partir de ce moment, elle retrouva la santé du corps et fut complètement guérie. Alors, quel est donc ce malaise? Il semble bien que ce soit ce qu'on appelle une dilatation aiguë de l'estomac, parce que Thérèse a tété pendant 2 heures et demie. Oui, son estomac a grossi et ça a entraîné un malaise vagal. Donc elle a fait une perte de connaissance banale. Mais de là à retrouver la santé du corps et à complètement guérir et surtout à sourire de cette manière-là, immédiatement après, on peut bien penser qu'il y a un autre type d'intervention. À côté de la nourrice et du bon lait qu'elle a donné, il y a la prière de Zélie et il y a donc l'intervention de Saint Joseph, à l'origine de la vie, patron de la bonne mort. Dieu va donc intervenir sur Thérèse par l'intermédiaire de Saint Joseph grâce à la prière de Zélie. On peut donc parler d'une guérison physique immédiate, puisqu'elle va se nourrir normalement. Bien, peut-être ne le savez-vous pas, Thérèse a eu sa vie durant une difficulté à s'alimenter. Ce qu'on peut appeler une tendance anorexique. Un dégoût des repas. Voici ce qu'elle dit. La nourriture était quelque chose à laquelle je ne pouvais pas penser. Cela me soulevait le cœur. Et on trouve maintes fois dans la correspondance familiale des conseils réitérés l'invitant à manger correctement. Et Céline, sa grande sœur, rapporte qu'elle a éprouvé dès sa plus tendre enfance une répugnance instinctive pour les repas. Elle ne comprenait point qu'on s'invitât pour cela. Que ce soit le but des réunions. Aussitôt qu'on veut jouir de la présence de quelqu'un, disait Thérèse, on l'invite à dîner. Que c'est étrange. Vous voyez comme elle est proche de nous. On devrait avoir honte de faire cette action-là et se cacher. Ah, si notre Seigneur et la Sainte Vierge n'avaient pas mangé, jamais je n'aurais pu me consoler de le faire. Voilà, on peut y voir là une séquelle. Des 2 premiers mois de vie où Thérèse a souffert dans son corps, dans son ventre, mais aussi dans son âme, parce qu'elle arrivait aux portes de la mort. Mais vous savez aussi qu'elle va garder toute sa vie une affection particulière pour Saint Joseph. Un deuxième exemple, beaucoup plus connu, c'est la Vierge du Sourire et la difficulté à vivre de Thérèse. L'enfance de Thérèse est donc marquée par la mort de Zélie à 4 ans, le départ de Pauline au Carmel à 9 ans, au point que Thérèse, dans cette angoisse de séparation maternelle répétée, avec en plus une torture intérieure qui va durer 4 ans, elle allait toutes les semaines au parloir du Carmel avec sa famille, donc avec ses sœurs. Tout le monde se précipitait pour parler avec Pauline, c'est-à-dire sœur Agnès de Jésus. Et quand arrivait la fin du parloir, qui était minutée, Thérèse essayait de dire quelques mots à sa Pauline, sa deuxième maman. Et elle n'y arrivait pas. Elle était là, au bord de pleurer, et voilà qu'il fallait se quitter. Et toutes les semaines, pendant 4 ans, cela va se répéter. Étant Marie, sa sœur Marie, qui justement prenait quasiment la totalité du temps du parloir pour parler avec Pauline, que Pauline, qui ne s'est pas du tout rendue compte de la souffrance de Thérèse, ses deux sœurs découvriront l'intime souffrance de Thérèse à travers les manuscrits autobiographiques, c'est-à-dire quand Thérèse avait 21 ans, et le racontera. Eh bien, cette répétition de l'angoisse de séparation va amener un craquage psychique, ce qu'on appelle un trouble anxieux de séparation, mais associé à l'étrange maladie, c'est-à-dire un état dépressif de l'enfant. Thérèse n'a plus d'énergie pour assumer la situation. Thérèse raconte, c'était le 13 mai 1883, jour de la Pentecôte, elle a 10 ans. Marie sortit dans le jardin, je me mis à l'appeler. Ceci dura longtemps. Enfin Marie revint, je la vis parfaitement entrée, mais je ne pouvais dire que je la reconnaissais. Comme si personne ne pouvait répondre à son besoin d'amour maternel. Je continuais d'appeler toujours plus fort. Et Marie raconte, je crus qu'elle allait y succomber. Au point que sa sœur se met à prier la Vierge Marie avec ferveur. Et Thérèse se tourne vers la statue, la Vierge du Sourire, qui se trouvait là. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle, que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffable. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent. Il y a donc là une deuxième guérison de Thérèse, mais qui va passer par une consolation, consolation maternelle. Une grâce aussi de relèvement, qui va entraîner une guérison immédiate de l'état dépressif, de cette étrange maladie, et une guérison évolutive, c'est-à-dire très progressive, du terrain dépressif, car de fait, il faudra attendre la grâce de Noël, 5 ans plus tard, pour qu'elle sorte complètement de cette fragilité. Donc là, c'est la Vierge du Sourire qui lui obtient cette guérison grâce à la prière de sa marraine, Marie, sa sœur, et la neuvaine de son père qui, à ce moment-là, était à Paris, à Notre-Dame des Victoires. Donc une vie nouvelle commence pour Thérèse, elle le dit elle-même. La vie jusqu'à présent lui semblait un exil, tissé de tristesse et de souffrance à cause des séparations qu'elle avait vécues. Elle dit très précisément qu'elle renaît à la vie. naître à la vie, renaître à la vie. C'est bien l'action de la Vierge Marie. Là où elle était blessée dans son attente maternelle, là où elle n'était pas aimée infiniment comme elle l'attendait, elle découvre qu'elle est passionnément aimée. Et à mon tour, je peux découvrir que je suis passionnément aimée par Dieu au travers de la tendresse, de l'amour, du sourire de la Vierge Marie. Thérèse choisit à ce moment-là, elle a 10 ans, de prendre Marie pour mère. C'est-à-dire qu'elle devient vraiment sa fille. La Sainte Vierge, disait-elle, ne sera jamais cachée pour moi, car je l'aime trop. Elle fait là, voyez, une expérience extrêmement profonde, en plein dans sa blessure d'abandon maternel, qu'elle a une autre maman qui peut lui donner la vie, qui lui donne même que la vie. Et la vie avec un grand V. Elle vit donc une guérison affective par son sourire, par sa tendresse maternelle, par sa bonté. Marie apaise son angoisse de séparation. Elle diminue son sentiment de culpabilité, c'est-à-dire cette honte. Elle stimule sa foi et sa confiance en Dieu. Thérèse va comprendre avec cet événement que ce n'est pas en se raidissant qu'elle triomphera, mais en accueillant le don de Dieu. Elle goûte pour la première fois que la première démarche de la vie spirituelle, c'est d'accueillir l'amour que Dieu me porte le premier et de me laisser aimer par lui, de me laisser aimer par ses parents, de se laisser aimer par Saint Joseph, de se laisser aimer par Marie. Cette invitation si forte de Thérèse et qui marque sa vie, puisqu'elle commence par une guérison par l'intercession de Saint Joseph et puis à 10 ans par la Vierge Marie, est une invitation très forte pour nous. Notre pape Benoît XVI est allé dans ce sens quand il nous dit: prenez chez vous les parents de Jésus. Jésus nous donne ses parents, car il a été si heureux avec eux qu'il veut nous donner ce trésor qui est Marie pour mère, et il le fait au pied de la croix, et qui est Joseph comme père adoptif, comme guide, comme ami. Et il le fait puisque Saint Joseph est l'homme du seuil. Quand vous ouvrez l'Évangile, la première parole qui apparaît au travers de ces engendrements successifs, quand arrive la 39e personne et donc le 40e engendrement, il est question de laquelle fut engendrée. Donc Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Donc l'homme du seuil, l'homme qui nous mène à Marie, l'époux de Marie, c'est Joseph. Donc vous voyez, cette expérience de Thérèse est forte pour nous. C'est entre Joseph et Marie que nous sommes invités à vivre. Thérèse découvre donc qu'il ne s'agit pas de faire par ses propres forces, mais de collaborer au don de la grâce. Il ne s'agit pas d'agir par soi-même, seul, mais de compter sur un autre. Et particulièrement là où elle se sent seule, abandonnée. Là où, vous le savez, quand on est tout seul, on pense qu'on va y arriver par nos propres forces. Et c'est justement là que Thérèse va se recevoir des mains de Dieu, des mains de Marie. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle oubliait, Moi, je ne t'oublierai jamais. » Thérèse relira plus tard ces passages d'Isaïe. « Je ne t'oublierai jamais car je t'ai gravé sur la paume de mes mains. » Et ça, c'est une expérience intérieure très profonde. Là où plus personne ne pouvait la rejoindre, ni sa maman, ni Pauline, ni sa marraine Marie, Dieu la rejoint par la Vierge Marie. Donc Dieu nous rejoint par la Vierge Marie dans nos blessures d'abandon. Mais ce n'est pas un acte magique. C'est une guérison affective, évolutive, un processus spirituel très doux, progressif, une fortification dans le temps, comme un bébé dans le sein maternel. La Mère de Dieu agit suavement, dit Thérèse, doucement, comme une mère réchauffe son enfant. Et ce que Thérèse vit là, que je vous décris, elle ne le réalisera que plus tard, en relisant sa vie, en 1895. Elle a 22 ans. Elle découvrira qu'avec cette grâce du sourire de Marie, 5 ans plus tard, avec la grâce de Noël, voilà qu'elle va commencer une véritable course de géant. En fait, pendant ces 5 années, elle est restée près de Marie. Elle accueillit Marie pour mère. Elle dit qu'elle demeure sous son manteau, sous son voile, comme l'enfant près de sa mère. Et elle découvre auprès de Marie une nouvelle manière de vivre. Vivre avec Marie. Vivre par Marie. Ou pour le dire d'une manière comme Grignon de Montfort, vivre en Marie. Sous son voile. Donc elle découvre une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de prier le Père en croyant qu'il est bon. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Nous expérimentons l'abandon, certes dans notre histoire de vie. Nous connaissons des blessures de séparation et d'abandon. Et c'est là où nous sommes abandonnés que Dieu nous reçoit. Je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Alors de fait, ce que vit Thérèse, et donc ce que nous expérimentons nous aussi, c'est qu'il s'agit de croire que Dieu est bon, que Dieu est tout proche de moi, alors même que ma sensibilité peine dans la nuit, alors même que j'ai l'impression d'une absence, que je ressens une souffrance, une tristesse, une solitude qui me pèse. C'est le moment de dire à Dieu, je sais, je crois que tu es là tout proche, que tu partages ma solitude, que tu ne m'abandonneras jamais. Donc en accueillant Marie chez elle, comme Saint Jean, Thérèse perçoit qu'elle est la mère. C'est la traduction la plus précise de « voici ta mère ». En grec, en fait, c'est « voici la mère ». La mère dont ton cœur a si soif. Cette mère parfaite qui ne donne que la vie. Là où sa maman n'avait pas pu lui donner la vie. Elle sait, Thérèse, que le trésor de la mère appartient à l'enfant, que tout ce qui est à Marie, et en particulier Jésus, Joseph, et toutes les mérites et les richesses de Marie, tout cela est pour elle, pour nous. Donc là où elle se sent abandonnée, elle reconnaît l'action de Marie parce qu'elle goûte à une douceur paisible. Malgré la douleur affective qu'elle peut ressentir. Elle goûte à une consolation empreinte de tendresse, alors même qu'elle peut ressentir une certaine angoisse de séparation. Vous voyez, cette expérience que nous pouvons faire quand, dans l'angoisse de séparation, dans la douleur affective, dans le sentiment d'abandon, nous nous tournons vers Marie et que nous goûtons donc à cette douceur paisible et à cette consolation, nous savons que Dieu est là. Je voudrais vous partager un troisième exemple de guérison qui porte particulièrement sur cette angoisse de séparation qui va suivre Thérèse pendant de longues années. C'est le jour de sa première communion. Elle accueille de toutes ses forces l'amour que Dieu lui porte le premier et elle écrit « Ah, qu'il fut doux, le premier baiser de Jésus à mon âme. » Ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimé, et je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Vous voyez là, Thérèse est visitée par Dieu dans un senti d'amour. Ça s'appelle une consolation. C'est une visite de la grâce qui me console. Donc elle se sait aimée, elle y croit, l'expérimente et elle se laisse aimer. C'est essentiel pour nous de goûter ne serait-ce qu'une fois à cette expérience de la visite de Dieu qui m'aime. Car il y aura des jours plus difficiles où je ne sentirai pas cet amour. Et là, ce sera important d'y croire. C'est-à-dire de donner mon amour au Seigneur sur qu'il est là. Donc on insistera, je crois jamais assez, sur cet épisode de sa première communion où Thérèse se laisse aimer. La vie de prière, c'est d'abord « Seigneur, tu m'aimes. » Toi, le premier. Je peux l'expérimenter quand Dieu me console. D'autres fois, je ne l'expérimente pas, alors je lui dis « Je crois en ton amour. » Et en retour, je t'aime et je me donne à toi. Donc Dieu a l'initiative, il me visite, je l'accueille et je réponds à son amour. C'est cette dynamique qui est à la source de la petite voix. En communion, Thérèse expérimente une nouvelle présence de Zélie, sa maman. L'absence de maman ne me faisait pas de peine. Le ciel n'était-il pas dans mon âme? Et maman n'y avait-elle pas pris place depuis longtemps? Ainsi, en recevant la visite de Jésus, je recevais aussi celle de ma mère chérie qui me bénissait, se réjouissant de mon malheur, de mon bonheur. Se réjouissant de mon bonheur. En ce jour, la joie seule remplissait mon cœur. Désormais, il n'y avait plus que Jésus qui pût me contenter. Eh bien, ça, c'est une guérison. Vous voyez, pour la première fois, au travers de la communion eucharistique, Thérèse est consolée et au moins partiellement guérie de ce douloureux sentiment de l'exil et d'angoisse de séparation maternelle. Mais on peut dire clairement qu'elle n'en sera jamais complètement guérie. On voit par exemple un épisode dans les années 95, je crois 1895, 96, où il est question qu'une de ses sœurs, puis il sera question qu'elle-même, parte en Indochine. Au Vietnam. Et la perspective d'une séparation avec le Carmel de Lisieux, avec ses sœurs, va entraîner une souffrance extrêmement aiguë, et elle va pourtant dire au Seigneur, « Seigneur, je veux bien tout. » Et elle dira, « Le Seigneur me demandait simplement de dire oui, mais il ne m'a pas demandé de consumer ce sacrifice jusqu'au bout. » En fait, aucune de ses sœurs ne partira, et elle non plus. Et vous savez dans quel contexte, entouré par ses sœurs, verra le dernier jour de sa vie au Carmel. Autre exemple de libération et de guérison intérieure, la maladie des scrupules. Thérèse va souffrir longtemps de la maladie du scrupule. Le scrupule, c'est une auto-accusation abusive qui nous amène à confesser de façon répétée notre culpabilité. Mais nous la confessons dans une angoisse permanente, qui est une crainte de ne pas être aimable, une crainte de ne pas être aimé. D'où son besoin, chez Thérèse, d'entendre dire par sa sœur Marie, à laquelle elle se confiait, que ce qu'elle avait pensé ou fait n'était pas grave. Toutes mes pensées et mes actions les plus simples devenaient pour moi un sujet de trouble. Je n'avais de repos qu'en les disant à Marie, ce qui me coûtait beaucoup, car je me croyais obligé de lui dire les pensées extravagantes que j'avais d'elle-même. On sait aujourd'hui, à travers les études du père von Münster, que ses scrupules portaient pour une part sur la sexualité. Elle venait d'avoir 12 ans. J'étais à l'âge le plus dangereux pour les jeunes filles, disait-elle. Et elle avoue aussi par ailleurs, personne ne m'a jamais instruite des choses de la vie. Ni son père, ni ses sœurs. Et donc elle en a trouvé connaissance en regardant la nature, les oiseaux, les fleurs. Comment Thérèse a-t-elle réagi à cette maladie ? En ouvrant son cœur. En disant à sa sœur Marie tout ce qui se passe et en disant aussi à son confesseur. L'ouverture du cœur, la confiance totale et l'obéissance à sa sœur Marie. S'appuyer donc sur un autre. Marie m'était, pour ainsi dire, indispensable. Je ne disais qu'à elle mes scrupules et j'étais si obéissante que jamais mon confesseur n'a connu ma vilaine maladie. Vous savez probablement que Thérèse va guérir de ses scrupules d'une façon très particulière. Elle va rentrer vraiment pour la première fois dans le mouvement de la petite voix, dont elle n'avait pas encore conscience, mais qu'elle commençait à expérimenter, exploiter sa petitesse, faire appel à ses petits frères et sœurs pour obtenir sa guérison. Donc elle choisit de faire appel à de tout petits enfants. Et ce sera chronologiquement sa quatrième guérison. C'est donc le 15 octobre 1886, elle a 13 ans. C'est une guérison intérieure évolutive. D'une certaine manière, elle se réconcilie avec ce qu'il y a de tout petit en elle, ce qu'il y a de culpabilisé, de fragile en elle, au travers de ses tout petits frères et sœurs. Au travers de ce mouvement et de cette guérison, elle consent à être petite, à être classée parmi les petits et à s'appuyer sur un autre, à s'appuyer sur le Seigneur. C'est-à-dire qu'elle commence à découvrir la différence qu'il y a entre la perfection et la sainteté. La perfection, c'est l'absence d'imperfection. Chercher la perfection, c'est être angoissé des imperfections possibles qui pourraient être là. Mais c'est aussi croire que par mes propres forces, j'y arriverai à un moment ou à un autre. C'est aussi ne cesser de confesser mes imperfections pour qu'on me dise « Mais non, c'est quand même... Non, c'est bien ce que tu fais. » Eh bien, Thérèse va commencer à s'éloigner du perfectionnisme et découvrir que la sainteté n'a rien à voir avec la perfection, c'est l'alliance de ma fragilité, de ma misère, avec la grâce de Dieu. Elle écrit plus tard, oui, il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté. Elle me semble facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant, sa fragilité, et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. C'est clairement dire que pour Thérèse, la sainteté n'équivaut pas à la disparition des imperfections. Au contraire, d'une certaine manière, à leur acceptation paisible dans la confiance en celui en qui elle peut tout, si petite qu'elle soit. Alors on peut dire qu'il y a guérison, mais c'est bien une guérison évolutive, parce que le terrain scrupuleux va rester fragile. Le 28 mai 1888, Thérèse est au Carmel, elle se confesse au père Pichon, et le père va lui dire « Je déclare que jamais vous n'avez commis un seul péché mortel. » Elle vient de faire une confession générale. Ces paroles sont les plus consolantes qui soient venues retentir à l'oreille de mon âme. Je sentais combien j'étais faible et imparfaite, mais la reconnaissance remplissait mon âme. J'avais une si grande crainte d'avoir terni la robe de mon baptême. Mais c'est une crainte scrupuleuse. Mais c'est une crainte angoissée. C'est une crainte avec un fond de culpabilité. C'est-à-dire, c'est une crainte de ne pas être aimée. En juillet 1889, Thérèse connaît un nouvel assaut de ses scrupules. Et le père Pichon devra la rassurer à nouveau, ainsi que sa maîtresse de novice, sœur Marie des Anges. Il réaffirmera la même chose en octobre 1889. « Je vous défends, au nom de Dieu, de mettre en question votre état de grâce. Le démon en rit à gorge déployée. Je proteste contre cette vilaine défiance. » Et cela se répétera encore en 1893, Thérèse a 20 ans. Je crois, d'après ce que dit Monseigneur Gaucher, qu'il faudra attendre le 9 juin 1895, c'est-à-dire son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, pour que vraiment disparaisse cette tendance scrupuleuse. Voilà, je pourrais multiplier les exemples comme cela. Je vais vous en donner encore un ou deux. Vous vous souvenez probablement de cette parole de Thérèse qui dit qu'elle n'avait pas d'autre volonté que celle des autres. Elle avait 12-13 ans. Elle n'était pas capable de se coiffer toute seule. Il fallait le faire pour elle. Elle pleurait souvent pour la moindre chose et ensuite pleurait d'avoir pleuré. On est là devant des symptômes qui s'appellent une immaturité psycho-affective. Or, à Noël 1886, Thérèse va mobiliser toute son énergie dans un choix radical. Alors qu'elle est à la fois dans le désir de grandir, mais en même temps dans un retour en arrière nostalgique d'un amour maternel brisé à plusieurs reprises. Elle va décider de rompre ce mouvement. Écoutez-la, papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée et dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année que Thérèse met ses souliers dans la cheminée pour Noël. C'est-à-dire que Thérèse se comporte comme un petit enfant pour le jour de Noël. Je montai alors l'escalier. Céline, connaissant ma sensibilité, me dit « Oh Thérèse, ne descends pas. Cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait et Céline croyait rêver. C'est une transformation. Elle dira elle-même qu'elle ne se reconnaissait plus, tellement elle avait changé. Je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. Je retrouvais mon caractère d'enfant, tout en entrant dans le sérieux de la vie. Ce qui veut dire clairement que sa dépression est terminée. Vous voyez, le signe de son entrée dans la dépression, c'est ce changement brutal de caractère à la mort de sa maman. Ça, c'est inquiétant pour le médecin. Jésus changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. Il me rendit forte, courageuse. Il me revêtut de ses armes. Et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu en aucun combat. Voilà, Thérèse sort de ce, est libérée en quelque sorte du regard affligé sur elle-même. Je pleurais et je pleurais d'avoir pleuré. Jusqu'à présent, elle aimait faire plaisir dans un cercle choisi et restreint. Mais désormais, elle a reçu une force et une lumière qui va l'ouvrir aux autres et particulièrement aux pécheurs. Elle peut affronter de face sa peur de grandir. Et elle dira donc un jour au Carmel à une de ses sœurs, bien des âmes dit, mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. Qu'elle fasse donc un grand effort. Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après cela, le cœur se fortifie et l'on va de victoire en victoire. On a bien là, et elle le dit, la source de mes larmes fut tarie, on a bien là la cinquième guérison. Guérison par Jésus enfant, Jésus Eucharistie. Elle parle de sa conversion. Elle est d'un seul coup guérie de sa timidité, de son hypersensibilité. Donc on touche tout à fait, vous voyez dans cet exemple, de la nécessité qu'il y a pour nous de nous positionner volontairement par rapport à l'amour dont nous réclamons qu'il vienne à notre secours. Certes, ma faiblesse présentée au Seigneur attire sa bonté et sa miséricorde, mais il n'y a pas de petite voix sans ce courage viril, cette force confiante devant les obstacles, les épreuves, les tentations. Voyez, si je n'ai pas de fuir devant les difficultés, mais de les affronter. Alors peut-être en passant par-dessous, ou en les contournant, mais de les affronter. La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscient de notre faiblesse et confiant jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Il y a d'autres expériences de libération intérieure. Vous avez entendu parler de ces peines d'âme, c'est-à-dire des craintes qu'elle avait d'avoir simulé son étrange maladie et d'avoir menti à propos du sourire de Marie. Vous voyez que ces tracas intérieurs s'associent tout à fait à la maladie des scrupules. Eh bien, va en guérir 4 ans plus tard, grâce à l'intercession de Notre-Dame des Victoires. Vous avez peut-être entendu parler aussi de sa difficulté à s'exprimer et à dire ce qu'il y a dans son cœur. Que de fois, quand elle était petite ou adolescente, elle voulait écrire une lettre et raconter à sa sœur ou à des membres de sa famille ce qu'elle vivait. Et elle disait, je vois la plume de Céline qui court sur le papier et moi je n'arrive pas. Je n'arrive pas à écrire ce que je vis. Je n'arrive pas à dire ce que je vis. Ce n'était qu'avec effort qu'il m'était possible de faire direction. N'étant pas habitué à parler de mon âme, je ne savais comment exprimer ce qui s'y passait. Quand elle écrit cela, elle est au Carmel. Il y avait tant de choses à se dire que je ne pouvais rien dire du tout. Mon cœur était trop plein. La difficulté que j'avais à ouvrir mon âme était une véritable épreuve. Je le reconnais maintenant. Et vous vous souvenez qu'au moment de la mort de sa maman, elle n'a rien dit, elle n'a pas beaucoup pleuré. Il y avait là, à l'évidence, vous voyez, un blocage au niveau de la communication. Et le Seigneur va la guérir progressivement. Au bout de 2 ans, au Carmel, Il y avait à peu près 2 ans que j'étais ici quand le bon Dieu a fait cesser mon épreuve par rapport à Sœur Marie des Anges, sa maîtresse des novices, et j'ai pu lui ouvrir mon âme. À la fin, elle me consolait vraiment. Mais ce sont surtout ses manuscrits autobiographiques, ses récréations, ses poésies, ses lettres, l'accompagnement de ses novices qui vont l'aider de plus en plus à exprimer ce qu'elle vit, à donner des conseils, c'est-à-dire à formuler la petite voix. Voyez comme le chemin de Thérèse est plein d'espérance. Et si ce chemin-là est plein d'espérance, c'est une espérance pour nous. Parce qu'il est vrai que quand on parle des saints, des grands saints, habituellement, ils sont sur un piédestal, ils sont d'une statue en hauteur, et ils nous paraissent bien inaccessibles. Thérèse est probablement la sainte de la simplicité, de la petitesse. Ce qui fait qu'on est si attaché à Thérèse, c'est ce qu'elle est comme nous. Et que donc, pour la première fois, cette humanité si simple dans laquelle on se retrouve, et cette sainteté si grande, nous fait espérer que peut-être pour nous aussi, alors, c'est possible. C'est possible dans le sens, Dieu peut le réaliser en moi. Parce que de mon côté, je vais donner au Seigneur la confiance dont il a besoin pour l'accomplir. Et je vais apprendre à m'abandonner avec confiance, entre ses mains, tout en apprenant à vivre avec ma faiblesse, tout en apprenant à aimer doucement ma misère. Sûr que le Seigneur est capable d'en tirer des merveilles. Je termine et conclue avec cette magnifique guérison qu'elle va obtenir par l'intermédiaire du père Alexis Proux au cours d'une confession. Thérèse se culpabilisait, par exemple, parce qu'elle s'endormait à la messe. Elle manquait de sommeil. Au Carmel, on dormait 5h30. Et elle avait 17 ans, 18 ans, et elle manquait de sommeil. Et un prêtre lui avait dit, il avait fait une sévère remontrance, il lui avait dit qu'elle offensait Dieu. Et c'est exactement le point névralgique qui fait mal à Thérèse. Si sa faiblesse est un péché, si sa faiblesse fait mal à Dieu, alors elle ne peut plus trouver la paix. Et elle rencontre donc ce père Alexis Proux qui lui explique « Il me lança à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'amour qui m'attiraient si fort, mais sur lesquels je n'osais avancer. Il me dit que mes fautes, ces fautes de faiblesse, ne faisaient pas de peine au bon Dieu. Que tenant sa place, il me disait de sa part qu'il était très content de moi. Jamais je n'avais entendu dire que les fautes pouvaient ne pas faire de peine au bon Dieu. Cette assurance me combla de joie, elle me fit supporter patiemment l'exil de la vie. Je suis d'une nature telle que la crainte me fait reculer. Avec l'amour, non seulement j'avance, mais je vole. » Fort de tous ces exemples de Thérèse, je vous propose une ou deux questions. Avez-vous expérimenté cette rencontre avec Jésus? Et ce témoignage dans le secret de votre cœur de sa bonté, de sa miséricorde qui vient consoler, relever, convertir, réconcilier, illuminer? Avez-vous dans votre vie des événements, des épisodes difficiles et l'expérience d'une visite du Seigneur qui vous amène, comme Thérèse, d'un état à un autre? Il y a un changement, il y a un avant et un après. Si c'est le cas, nous pouvons ensemble dire merci au Seigneur et lui donner encore plus notre confiance. Si ce n'est pas le cas, Mais vous voyez que si Thérèse l'a vécu, eh bien nous aussi nous pouvons le vivre. Et donc avec Thérèse, je vous invite à redoubler de confiance, d'intimité avec Jésus, pour qu'il puisse agir là où vous avez une angoisse de séparation, là où vous avez une blessure, là où vous avez une difficulté que vous traînez péniblement. La libération, c'est pouvoir la porter avec amour. Et parfois, de fait, Jésus peut aller plus loin, il peut guérir, il peut ôter l'obstacle. D'un seul coup, comme il l'a fait pour Thérèse certaines fois, progressivement, comme il l'a fait d'autres fois. Voilà, je vous renvoie donc avec ces deux questions. Et à demain pour la troisième et dernière partie sur la liberté spirituelle.